Bonsoir. C'était l'une des ordonnances Macron les plus décriées par les syndicats cet après-midi. La Cour de cassation a donné raison au gouvernement. Elle valide le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Les prud'hommes vont devoir rentrer dans le rang, ce qui n'empêchera pas certains de chercher à contourner le barème, nous expliquera Claire Chaudière. Au ministère de la Transition écologique, Elisabeth Borne, déjà au travail, François de Rugy estime qu'une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. Et au téléphone sonne ce soir, Yves Decaen.
Eh bien, après la démission de François de Rugy, que révèle cette nouvelle affaire des mœurs politiques françaises et du rapport des élus aux médias, jusqu'où peut aller la transparence de la vie publique? Vos questions, bien sûr, au 01 45 24 7000.
Notre reporter Simon Cardona est entré, avec précaution, dans Notre-Dame de Paris. La voûte n'est pas encore totalement sécurisée. Dessous, des robots travaillent et un peu plus loin, des scientifiques cherchent les deux derniers secrets des bâtisseurs de cathédrales. Le français Bernard Arnault devient le deuxième homme le plus riche du monde, derrière Jeff Bezos d'Amazon, mais devant Bill Gates de Microsoft. Le propriétaire de Dior et Vuitton pèse 93 milliards d'euros au classement Bloomberg. Le Cambodge n'est pas une poubelle. Dernier exemple de la fronde qui gagne les pays d'Asie. 1600 tonnes de déchets plastiques vont être renvoyées en Amérique. À Avignon, la sensation Kirill Serebrennikov et le journal du Tour. À Toulouse, victoire au sprint de l'Australien Caleb Ewan. Le ciel se couvre demain, nous dira Sébastien Léas.
France Inter.
La Cour de cassation a donc validé le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif. Depuis le mois de décembre, plusieurs conseils de prud'hommes avaient remis en cause le barème introduit par ordonnance au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le barème va de 1 à 20 mois de salaire brut en fonction de l'ancienneté du salarié, alors que les prud'hommes pouvaient auparavant fixer librement les indemnités. Pour la plus haute juridiction, ce plafonnement n'est donc pas contraire aux dispositions internationales. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Cette décision devrait maintenant s'imposer au juge du travail.
Oui, et c'est une victoire pour l'exécutif qui voit l'une des mesures phares du quinquennat Macron légitimer. Ce barème qui plafonne les indemnités pour licenciement abusif est bien compatible avec les textes de l'Organisation internationale du travail. Ce cadre laisse suffisamment de marge d'appréciation au juge, explique en somme la Cour de cassation dans son avis. Thierry Philippot, conseiller prud'homal côté salarié à Louviers dans l'Eure, d'où est partie cette demande de clarification, s'incline.
Beaucoup de juges, beaucoup de conseils de prud'hommes vont l'appliquer. Je le prends très au sérieux, c'est quand même un avis de la Cour de cassation. Ça va clarifier les choses. Vous savez, lorsqu'on est conseiller prud'homme, qu'on est juge, il y a certains textes qu'on n'apprécie pas, qu'on ne trouve plus adaptés. On ne partage ni le contenu, ni la philosophie, mais pour autant, on doit les appliquer.
Alors si des résistances existeront ici ou là, elles devraient être limitées, estiment les juristes. Une bonne nouvelle pour l'emploi, se félicite la Confédération des petites et moyennes entreprises, car sans ce barème pour les sécuriser, certains patrons, dit la CPME, ont peur d'embaucher. Mais les contentieux vont aussi parallèlement évoluer et de nouveaux arguments devraient permettre de sortir de ce nouveau cadre, prévient Mehdi Locatelli, avocat spécialisé en droit du travail.
Le barème est conforme aux engagements internationaux de la France. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres postes de préjudice qui n'ont jamais été examinés jusqu'à présent. Je vous parlais du préjudice d'anxiété pour les salariés travaillant dans l'amiante. On peut imaginer un préjudice d'anxiété pour le salarié licencié de manière abusive. Il peut y avoir les circonstances brutales et vexatoires du licenciement, préjudice lié à la perte de la mutuelle. Ce sera en plus du barème.
Des affaires qui ne cessent d'ailleurs de gagner en complexité, ce qui peut tout de même, notent les avocats, constituer un sérieux frein pour les salariés.
Merci Claire Chaudière. François de Rugy a quitté en début d'après-midi le ministère de la Transition écologique, salué par des applaudissements polis, la main dans celle de sa femme, Séverine de Rugy, journaliste au magazine People Gala, que Mediapart présente comme l'organisatrice des dîners fastueux. Une affaire brièvement évoquée par François de Rugy.
Je crois qu'aucune maladresse commise, aucune erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel ne peut venir effacer les actes posés, les avancées réalisées, les moyens dégagés pour mener concrètement une politique de progrès écologique. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. Elle se juge aux actions et aux réalisations.
Propos recueillis par Sandy Dauphin. Elisabeth Borne, qui lui succède, assure qu'elle n'arrive pas en terre inconnue. Cet après-midi, elle est déjà au Sénat pour l'examen du projet de loi énergie et climat. Alors que le train fantôme, le train qui amène des fruits et légumes de Perpignan à Rungis, près de Paris, est finalement suspendu jusqu'en novembre. Le train de fret roulait à vide depuis 3 jours. Avec les atermoiements sur le maintien de cette liaison, les clients s'étaient déjà reportés sur la route, au grand dam des écologistes. À 8 mois des municipales, le gouvernement veut se réconcilier avec les élus locaux et lutter contre la crise des vocations. Un projet de loi a été présenté ce matin pour garantir un droit à la formation, prendre en charge les frais d'avocat si besoin et augmenter l'indemnité des maires de petites communes. Jusqu'à 3500 habitants, chaque conseil municipal pourra les porter à 1670 euros. Michel Fournier est maire de Lévoivre dans les Vosges et vice-président de l'association des maires ruraux. Il attendait plus de reconnaissance.
Le gadget, nous, on n'en veut pas. On veut simplement une reconnaissance réelle. Beaucoup de communes n'auront pas les moyens et n'ont déjà pas les moyens de pouvoir indemniser correctement les élus qui les représentent, et notamment des petites communes. Mais il faudra qu'il y ait une dotation générale spécifique par rapport à cela.
C'est vraiment un problème aujourd'hui, les indemnités ?
C'est pas le problème premier. Le problème premier, c'est donner plus de liberté aux élus, ne pas les traiter comme des petites filles ou des petits garçons qui ne savent pas définir les compétences qu'ils veulent ou non exercer, etc., etc. S'ils veulent nous reconnaître, ce qui a l'air d'être le cas, puisque les maires sont devenus des saints, on a tous une auréole maintenant, depuis l'espace gilet jaune. Cette auréole, il faut peut-être l'entretenir, quoi.
Propos recueillis par Yael Gauze. Le traité de libre-échange CETA a réuni toutes les oppositions contre lui cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'a défendu en invoquant les liens profonds et anciens entre l'Europe et le Canada, particulièrement précieux dans un monde incertain. Une centaine d'agriculteurs sont venus manifester contre la malbouffe qui va, selon eux, se retrouver dans nos assiettes. Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, 3 mois ont passé depuis l'incendie spectaculaire qui a détruit la flèche et la charpente. France Inter a pu entrer dans la basilique à ciel ouvert désormais. Les travaux sont toujours dans la phase de sécurisation, pas de restauration. Des scientifiques et des historiens en profitent aussi pour explorer Notre-Dame qui pourrait livrer quelques secrets jusqu'ici inaccessibles, Simon Cardona.
Pendant qu'à l'extérieur, des ouvriers consolident les arcs-boutants et solidifient la structure de la cathédrale, à l'intérieur, les scientifiques récupèrent, trient et analysent chaque gravat, chaque bout de bois incendié.
C'est de l'archéologie qu'on est en train de faire là-dessus.
Philippe Villeneuve, architecte en chef de Notre-Dame.
On ne va pas prendre notre pelle et mettre ça dans des sacs, surtout pas. Parce que les chercheurs ont besoin de savoir la chute des bois, récupérer certains éléments, faire une analyse de l'âge des bois, voir comment c'est tombé, à combien de degrés ça a brûlé, est-ce que ça a calciné la pierre, ça.
À la fois pour comprendre ce qui a pu se passer lors de l'incendie, mais aussi et surtout pour en savoir plus sur ce chef-d'œuvre de l'art gothique.
On pourra analyser les mortiers, on pourra analyser les parements, la taille, même éventuellement des tâcherons pierreux qui, lorsqu'ils construisaient leur pierre, mettaient une marque pour se faire payer. Peut-être que sur certains éléments de la voûte, on va retrouver ces tâcherons. Tout ça, ça va nourrir la connaissance.
Sur place, ils ne sont qu'une grosse dizaine, mais des scientifiques du monde entier participent aux recherches sur Notre-Dame en ce moment.
On est en rapport, on est en lien avec beaucoup, beaucoup d'intervenants, de chercheurs, de gens intéressés et même des gens qui vont nous apporter des choses qu'ils avaient déjà glanées de leur côté. Donc ça va être quelque chose de terriblement enrichissant.
Mais un travail très long et dangereux, certaines pierres sont imbibées de plomb, très présents dans la flèche et la toiture qui se sont effondrées lors de l'incendie.
Ils sont 3 dans le monde à posséder chacun plus de 100 milliards de dollars. Et dans ce petit club, le français Bernard Arnault s'est hissé aujourd'hui à la 2e marche du podium, Isabelle Raymond.
Toujours derrière le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, mais désormais devant celui de Microsoft, Bill Gates. Bernard Arnault prend la 2e place du classement des plus grandes fortunes du monde, avec une fortune personnelle estimée à un peu plus de 105 milliards de dollars, soit 93 milliards d'euros. L'homme d'affaires français de 70 ans profite de la bonne santé de son empire, le géant du luxe LVMH qui contient en son sein des marques comme Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain ou bien encore Moët et Chandon. C'est la plus grosse capitalisation du CAC 40 et la famille Arnault en possède 47%. L'entourage du désormais 2e homme le plus riche de la planète tempère la portée de cette médaille d'argent qui ne reflète que la valeur actuelle de l'entreprise, celle d'un cours de bourse certes en forme, mais on le sait ô combien volatile. Et rappelle que le groupe LVMH est en France l'un des plus gros contributeurs en termes d'impôts sur les sociétés et embauche plus de 10 000 personnes par an.
Les ministres du G7 Finance sont réunis à Chantilly, près de Paris, jusqu'à demain. Et on apprend ce soir qu'ils se sont accordés sur le principe d'une imposition minimale des sociétés pour lutter contre l'évasion fiscale. Il était le narcotrafiquant le plus puissant du monde. Le Mexicain El Chapo a été condamné à New York à la prison à perpétuité. Un chef impitoyable et sanguinaire pour le procureur fédéral. Joaquin Guzman est âgé de 62 ans. La justice américaine estime aussi que le cartel de Sinaloa n'a rien perdu de sa capacité de nuisance. À Erbil, capitale du Kurdistan autonome iranien, un diplomate turc a été abattu ce midi. Ankara promet de riposter sans désigner de coupable, même si tous les regards se tournent vers le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le gouvernement cambodgien veut renvoyer aux États-Unis et au Canada 1600 tonnes de plastique, des déchets illégaux découverts dans 83 conteneurs sur le port de Sihanoukville. Dernière illustration de la colossale quantité de plastique produite dans un monde incapable de les gérer. 300 millions de tonnes par an selon le WWF, le Fonds mondial pour la nature. Mais exemple aussi de la révolte des pays d'Asie qui ne veulent plus servir de décharge, Nathanaël Charbonnier.
Le Cambodge rejoint en effet la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande, autant de pays qui, après avoir accueilli à bras ouverts les déchets du monde, ont décidé les uns après les autres de stopper ce genre d'importation encombrante et polluante. En réalité, c'est la Chine qui en 2017 avait été la première à dire stop aux déchets papier et plastique. Il faut dire qu'il y a quelques années encore, le pays à la Grande Muraille importait plus de 7 millions de tonnes de déchets, le chiffre est tombé à 1,5 million en 2018. Et comme la nature a horreur du vide, le marché s'est alors déplacé dans les autres pays de la région. Et quand on sait que chaque année, on produit près de 350 millions de tonnes de plastique, il y a en effet de quoi s'inquiéter. La tendance est donc au retour à l'envoyeur. Dans le cas du Cambodge, les conteneurs devraient retourner aux États-Unis et au Canada, en espérant qu'il n'y ait pas de perte en route, car tout le monde sait que l'océan aussi déborde de sacs et déchets plastiques, et que contrairement aux gouvernements asiatiques, l'océan, lui, n'a pas la possibilité de se défendre et de se faire entendre.
Direction Avignon maintenant, c'est loin de la Cité des Papes que l'artiste russe Kirill Serebrennikov suit sans doute le succès de son spectacle Outside, sa première création depuis sa sortie de prison en avril dernier. Lui est toujours assigné à résidence à Moscou. Il rend ici hommage au poète et photographe chinois Ren Hang, qui fut lui aussi confronté à l'autoritarisme. Outside a emballé le festival, et vous aussi Stéphane Capron.
Après Architecture, dans la cour d'honneur, c'était le spectacle le plus attendu de ce festival d'Avignon et il n'a pas déçu le public qui a réservé une ovation à l'équipe de Kirill Serebrennikov venu saluer avec des t-shirts portant l'inscription Free Kirill. Le metteur en scène russe a écrit ce spectacle alors qu'il était en résidence surveillée. Il est poursuivi dans une affaire controversée de détournement de fonds qu'il estime avoir été montée de toutes pièces par le pouvoir russe. Depuis le printemps, il est libre de ses mouvements mais ne peut pas quitter Moscou. Il a donc pu répéter avec les comédiens de sa compagnie. Outside est un spectacle sur le photographe chinois Ren Hang, connu pour ses photos érotiques, censurées par les autorités de Pékin. Les deux hommes avaient prévu de se rencontrer en 2017, mais le photographe s'est suicidé deux jours avant le rendez-vous. Le metteur en scène russe lui rend hommage à travers ce spectacle. C'est une ode à la liberté d'expression, à la liberté sexuelle. Kirill Serebrennikov compose avec ses interprètes des tableaux d'une sensibilité et d'une sensualité extraordinaires. Un vrai choc théâtral, comme rarement le Festival d'Avignon n'en avait connu ces dernières années.
19h13, place au Journal du Tour. Une victoire australienne avant la montagne, le maillot jaune qui reste sur les épaules du très populaire Julian Alaphilippe. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
Et c'est l'Australien Caleb Ewan qui s'est imposé à Toulouse.
Les commentateurs italiens espéraient un deuxième succès de leur coureur Elia Viviani. Pour quelques centimètres, c'est bien Caleb Ewan qui est allé signer sa première victoire sur le Tour devant le néerlandais Dylan Groenewegen et Viviani troisième, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne. Caleb Ewan, deuxième de Milan-San Remo l'an dernier, est entré dans le cercle des coureurs vainqueurs d'étape sur tous les grands tours à seulement 25 ans. John Lelang, le manager de son équipe La Lotto.
Il mérite de gagner. Je crois que c'est le seul coureur qui a fait dans les quatre sprints précédents chaque fois deux ou trois. Donc ça veut dire qu'il a les jambes, que son train fonctionne, qu'il est bien positionné. Il fallait parfois un petit peu de chance, parfois un petit peu plus de puissance. Et aujourd'hui, ça a réussi. Et on va continuer. La prochaine, c'est Nîmes. Après, on verra les champs.
Caleb Ewan, 4 fois sur le podium avant ce succès, vainqueur d'un sprint qui aurait pu être marqué par une chute évitée par le sprinteur italien Nicolo Bonifazio. Il a percuté le téléphone portable d'un spectateur, oui, dans les 100 derniers mètres avec son casque tête baissée.
Je voulais prouver à passer Caleb Ewan, je m'ai trouvé tout sous la droite, sous la gauche, et je pense que toucher quelque chose, et après le vélo s'est fermé, le vélo s'est arrêté, cassé le vélo, et c'est pas possible pédaler.
Toute la déception de Nicolo Bonifazio, un fait de course qui rappelle l'importance, Sarah, du respect des règles de sécurité côté spectateur.
Et c'est le coup de gueule du jour, Fabrice, celui de l'un des échappés.
4 coureurs qui ont animé cette étape, les Français Calmejane, Pérez, Rossetto et le Belge De Gendt. Les 3 premiers Français ont été repris à 10 km du but, le Belge De Gendt à 4,5 km de la ligne. Il a même été désigné coureur le plus combatif du jour. Stéphane Rossetto n'a pas du tout apprécié.
Pour que ça marche, il faut que tout le monde soit loyal. Voilà, il y avait Lilian qui était loyal, Anthony. Par contre, le Belge, c'est bon, quoi. On a dit, OK, on roule à fond à partir de tel kilomètre. Il roulait aussi vite qu'avant, hein, il passait juste son vélo. Et à la fin, il me flingue juste pour aller faire le dossard rouge. Je dis, OK, tu peux pas aller au bout avec des mecs comme ça. Voilà, ça me casse les couilles parce que tu tombes sur des ratagas, putain.
Le franc-parler de Stéphane Rossetto, très en colère, qui tranche avec l'émotion d'Anthony Pérez, le coureur devant sur les routes du Tour, chez lui à Toulouse. Quelques temps après avoir perdu sa maman, Sophie Pérez, la sœur d'Anthony.
Il y a beaucoup d'émotions cette année. On a perdu maman il n'y a pas longtemps. Il y a tout juste un mois et c'est vrai que ça fait partie de la vie. Et je suis très fière de lui. On est tous très fiers de lui parce que malgré tout ça, il a réussi à surmonter. Il est encore là. Pour la mémoire de maman, c'est quelque chose de magnifique parce qu'elle avait souhaité que Stéphane fasse le tour. Du coup, c'est quelque part un rêve réalisé et voilà.
Une étape également marquée par une chute à 30 km de l'arrivée, fatale à Nicky Terpstra, ancien vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, contraint à l'abandon, clavicule sans doute cassée. Un strike qui a emporté l'Australien Richie Porte, le Colombien Nairo Quintana. Ces derniers ont réussi à réintégrer le peloton, pas l'ancien maillot jaune Ciccone qui a franchi la ligne avec 12 minutes de retard. Julien Bernard, coéquipier de Ciccone.
J'ai juste passé la chute et que j'ai vu tous mes copains par terre, donc c'est pas super agréable. Sur 8 coureurs, on en a 6 qui sont tombés. On est un peu inquiet pour Giulio aussi, parce que je sais qu'il a été vraiment marqué, donc c'est vraiment pas cool pour nous, quoi. On a vraiment pas eu de chance encore aujourd'hui, donc c'est des petites choses qui se rajoutent et c'est jamais très bon, quoi.
Une dernière étape de transition avant la montagne, le maillot jaune est toujours sur les épaules de Julien Alaphilippe. Demain la route va s'élever, 209,5 km. Attend les coureurs entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre.
Merci Fabrice Rigobert.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Sarah, bonsoir à tous.
Il y aura plus de nuages demain.
Oui, après ce début de semaine ensoleillé, le ciel sera plus chargé demain, notamment sur le nord-ouest concerné par une perturbation. Quelques pluies se feront localement remarquer entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France, voire l'ouest parisien. Les pluies seront déjà épisodiques le matin et deviendront encore plus isolées demain après-midi. Dans le sud-ouest, c'est surtout la matinée qui sera nuageuse à cause de grisailles venues de l'océan, débordant jusqu'en Midi-Pyrénées. Et l'après-midi, ces entrées maritimes auront disparu et c'est le soleil qui régnera avec un risque d'averse orageuse sur les Pyrénées. Le soleil sera présent dès la matinée entre les régions de la Méditerranée et le centre-est, mais quelques averses pourront éclater sur le Mercantour l'après-midi. Enfin, sur le quart nord-est, les éclaircies seront belles le matin, un peu plus timides l'après-midi.
Ambiance toujours estivale malgré tout.
Et les températures seront encore chaudes sur les régions de l'est, alors qu'à l'ouest, les maximales seront en légère baisse, restant tout de même de saison. Demain après-midi, les températures seront comprises entre 20 degrés au Havre et 35 degrés à Orange. Il fera notamment 24 degrés à Nantes et à Biarritz, 26 degrés à Paris et Angoulême, 30 degrés pour Strasbourg et Grenoble, 32 degrés à Marseille et jusqu'à 34 degrés à Nîmes.
Merci Sébastien Léas.